Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, un podcast France Télévisions de P2L. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle, dans cet épisode, des troubles neurovisuels. Les troubles neurovisuels, c'est un sujet dont on parle rarement, je crois même que dans la maison des maternelles, on l'a très peu évoqué sur les 6 dernières années. Je peux pas parler avant, j'étais pas là, mais sur les 6 dernières années, ça a été très peu abordé. Donc ça tombe bien, on va le faire aujourd'hui, on l'a fait ce matin dans l'émission sur France 2, et si vous l'avez raté, petite séance de rattrapage tout de suite en version podcast. Déjà un témoignage, celui de Virginie, puis nous serons avec une neuropsychologue, Sylvie Chocron, qui nous donnera plein de bons conseils. C'est parti.
Alors c'est vrai qu'on dit souvent dans cette émission que l'instinct maternel n'existe pas, mais enfin en revanche, l'intuition d'une mère, ça peut sauver son enfant. Bonjour Virginie.
Bonjour Agathe.
Vous êtes la maman de Thaïs qui a 25 ans, Flora qui a 23 ans, Ambre qui a 15 ans. Et puis on vous a dit d'abord que votre deuxième fille, c'est-à-dire Flora, était autiste. Ensuite on vous a dit, ah non, mais elle est dyspraxique. Ensuite on vous a dit, ah non, mais elle est dysphasique. On vous a dit, elle parlera jamais de toute façon, votre fille. Mais vous, en tant que maman, vous ne reconnaissiez pas ce diagnostic comme étant le bon. Vous avez donc suivi votre instinct, vous avez continué à creuser jusqu'à découvrir qu'il s'agissait en fait d'une mauvaise connexion entre l'œil et le cerveau. Votre fille, elle a été prise en charge par la neuropsychologue Sylvie Chocron que nous aurons tout à l'heure sur ce plateau. Et elle va vous éclairer sur ce qu'on appelle les troubles visuels, un sujet qu'on connaît très très mal. Et grâce à votre combat, grâce à vos recherches, aujourd'hui, Flora, elle a récupéré quasiment toutes ses capacités. Là aussi, vous ne vous étiez pas écoutée, elle serait autiste et elle n'aurait pas pu rattraper ses apprentissages. Alors, on va revenir évidemment au début de cette histoire incroyable. Il y a eu des complications particulières à la naissance de Flora ou pas ?
Elle avait le cordon ombilical deux fois autour du cou. A priori, on ne m'a pas forcément dit qu'il y avait eu un problème à la naissance.
Vous avez posé la question, on vous a dit non, il n'y a pas de trouble.
Voilà, bon. Malgré tout, c'est une enfant qui ne s'est pas développée comme les autres enfants.
Donc, c'est-à-dire jusqu'à ses 3 ans, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui vous paraissait un peu...
Elle a marché très tard, elle n'a pas commencé à parler à l'âge où il faut commencer à parler. Elle avait beaucoup de reflux, donc je me suis dit, en fait, c'est avec le pédiatre, on s'est dit, c'est peut-être les causes de ces reflux gastro, voilà. Mais en fait... c'était pas ça. Donc, la première fois, je suis allée à Garches, dans un hôpital, pour voir un peu ce qu'il en était. Et on m'a dit que vraisemblablement, elle avait des troubles autistiques. Mais moi, je la regardais dans les yeux et franchement, ça me parlait pas. Donc, j'avais pas du tout envie de m'arrêter à ça.
Elle a fait son entrée à la maternelle quand même. Et c'est ça qui a été l'électrochoc pour vous.
Oui.
On vous a un petit peu alerté.
Bah, carrément, parce qu'en fait, elle restait dans un coin de la classe. Elle ne se mélangeait pas du tout avec les autres enfants. Donc, la maîtresse m'a dit, elle aussi, qu'elle pensait que Flora avait des troubles autistiques et qu'il fallait absolument que soient pris en charge ces troubles.
La maîtresse aussi disait ça.
Oui, bien sûr. Oui. C'était vraiment flagrant. Hein. Flora, elle restait vraiment dans un coin de la classe et elle ne jouait pas avec les autres enfants. Et elle ne parlait pas du tout. En maternelle.
Elle ne parlait pas du tout. Ça, plus le fait qu'effectivement, elle avait eu des petits retards dans la marche, qu'elle s'était assise aussi, je crois, plus tard. À un an, elle ne s'asseyait pas toute seule.
Exactement.
Donc tout ça, ça faisait quand même un faisceau d'indices qui vous disaient, il y a un problème.
Oui,
mais
oui.
Vous disiez, non, ce diagnostic de trouble autistique, ça, je ne le prends pas. Oui. Alors, de ce fait, vous êtes allée consulter des équipes de psychiatrie dans 2 autres hôpitaux à Paris.
Oui.
Qu'est-ce qu'on vous a dit dans ces 2 autres hôpitaux ? Donc, vous essayez de chercher un contre-diagnostic, là.
C'est ça, exactement. Donc, d'abord, on est allée à Necker. Elle a passé quand même 2 jours au service psychiatrie. Elle a dormi sur place. Et puis, on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème psychiatrique, parce que, on cherchait. Hein. Mm-hmm. Mais là, ils nous ont parlé de dyspraxie.
La dyspraxie, pour expliquer ce que c'est en 2 mots.
C'est le fait que l'enfant maîtrise mal ses gestes.
D'accord.
Voilà. Donc effectivement, Flora, elle se cassait la figure régulièrement en marchant parce que elle loupait une marche ou machin. Hein, donc ça a été plutôt diagnostiqué dyspraxique. Mais disons que les solutions qu'il nous proposait, enfin, me parlaient pas trop. Alors du coup, je suis allée voir encore un troisième parce que. Je ne sais pas, quand vous êtes maman, il y a un truc qui vous dit « ça ne va pas ». Les gens qui me parlent, j'ai l'impression qu'ils me servent leur discours tout fait et ils ne me parlent pas de ma fille. Et donc, je suis allée voir encore un troisième hôpital. Tout ça, je bossais, donc c'était quand même assez lourd. Donc, je suis allée à Robert Debré, de mémoire. Et là, on m'a dit qu'elle était dysphasique, Alors là, on a repassé sur un autre diagnostic.
Alors, de la dysphasie, c'est quoi? C'est la parole,
c'est ça? La parole, c'est un problème de langage. L'enfant ne sait pas parler, il ne peut pas parler neurologiquement parlant. Et qu'elle allait apprendre, du coup, à communiquer avec nous, mais avec des cartes macathon, c'est-à-dire avec des cartes qui expriment « je veux du lait », enfin, voilà, je ne connais pas exactement, puisque de toute façon, j'ai refusé immédiatement. Que...
Oui. Oui, c'est-à-dire que ça ne vous a pas parlé non plus,
non
ça.
Plus, non plus.
Donc on vous dit, de toute façon, votre fille ne parlera jamais.
Voilà, c'est ça.
Elle est dysphasique, merci, au revoir. Ouais,
ouais. Et là, elle a 4 ans. Hein,
le temps passe.
Le temps passe. Hein, ouais. Les rendez-vous dans les hôpitaux, ça prend du temps et tout. Donc
là, vous n'y croyez toujours pas, mais vous êtes dans une situation où vous êtes désespérée, j'imagine.
C'est ça. Je suis
après avoir fait 3 hôpitaux, 3 diagnostics, qu'est-ce que vous avez fait alors?
Alors là, on en parle quand même pas mal avec mon mari. Et puis, il y a quand même une chose qui est assez flagrante pour nous, c'est qu'elle voit mal. Mm-hmm. Alors, elle a des lunettes, hein, mais même avec ses lunettes, elle voit mal. Donc, on ne comprend pas trop. Et du coup, par une amie, on a rendez-vous avec un ophtalmo à la Fondation de Rothschild, Fondation ophtalmologique de Rothschild. Qui nous reçoit et qui nous dit assez vite, écoutez, on a une spécialiste qui vient de commencer les consultations avec les enfants. Et ce que vous, je vous regarde, Flora, est-ce que vous me dites, j'aimerais bien que vous la rencontriez, est-ce que vous avez un peu de temps cet après-midi?
Oh. Vous l'avez pris, j'imagine.
On a pris le temps. et donc, nous voilà à la rencontre de cette femme qui a sauvé Flora. Je rentre dans un petit bureau à la Fondation Rothschild qui doit faire 10 mètres carrés, pas de fenêtre. Et là, il y a un soleil qui est là. Un soleil, pourquoi? Parce que c'est une femme qui est resplendissante de confiance, je pense. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à ma fille, ce que les autres spécialistes n'avaient quasiment pas fait, parce qu'ils parlent aux parents et ils parlent de votre enfant comme si elle n'était pas là. C'est affreux.
Trop classique.
Et là, elle s'adresse à Flora, et pendant une demi-heure, elle m'a à peine parlé. Et elle parle avec Flora, et elle communique avec elle. Alors, Flora, elle ne parlait pas, hein, mais ce n'est pas grave, elle trouve des moyens de communiquer avec elle et tout ça. Et sans que je le sache, et finalement, je pense qu'elle essaye de comprendre si Flora a des troubles neurovisuels, ce dont vous parliez tout à l'heure. Et au bout d'une demi-heure, elle me dit, et elle m'en parle, mais avec beaucoup de douceur, et en tenant compte de l'être humain qui est à côté de moi, qui est Flora, qui a 4 ans. Et elle me dit que vraisemblablement, Flora doit avoir des troubles de ce type et elle me demande de faire un IRM.
Alors, que donnent les résultats de l'IRM? Qu'est-ce que vous avez vu?
Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que j'avais fait un IRM à Garches un an avant. Et là, elle me demande de faire un IRM dans la partie neurovisuelle du cerveau.
Qu'on n'avait pas
qui n'avait pas été fait.
D'accord.
Et là, à l'IRM, il y a une lésion qui est vraisemblablement due au cordon autour du cou qu'elle a eu à la naissance.
Voilà, dont on vous avait dit, non, ça n'aura pas causé de troubles, etc. Voilà. Mais vraisemblablement, c'est ça qui a causé les troubles et qui a créé la lésion. Alors, quels espoirs vous a donné Sylvie Chocron à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle avait comme marge de progression?
C'est là où elle est top, c'est-à-dire qu'en fait, elle dit, on va avancer, on va rééduquer, elle va progresser, mais je ne sais pas où on va aller. Et moi, ça me va comme discours, parce que je ne veux pas qu'on me dise « elle ne va pas parler de sa vie », enfin, je ne veux pas qu'on me projette l'avenir de ma fille. Je veux qu'on me dise « on va bosser », parce qu'on a beaucoup bossé. Hein. Moi, j'ai été son coach, elle a bossé comme un sportif de haut niveau.
Il y avait 4 ans d'apprentissage à récupérer.
C'est ça, exactement. Mmh. Mais voilà, elle me dit « on va progresser, on va réparer ». Mais je ne sais pas jusqu'où, parce qu'elle est honnête, elle commençait des consultations avec les enfants, donc elle n'avait pas...
C'était le tout début.
C'était il y a 19 ans. Hein. Mmh. Et voilà. Et donc, Flora, aujourd'hui, elle a 23 ans.
Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la petite Flora, elle voyait à l'époque comme dans un tout petit tube. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'elle se cassait la figure tout le temps.
C'est ça.
Et c'est vraiment, elle avait des gros troubles qui expliquent évidemment qu'elle ne pouvait pas créer de lien à partir du moment où on ne l'accompagnait pas avec ce trouble-là.
C'est ça.
Alors, en plus de ce travail donc, de sportif de haut niveau, comme vous le disiez, votre fille a vu une orthophoniste, une psychomotricienne. Elle est retournée régulièrement à la Fondation Rothschild. Il y a eu donc une multidiscipline de rééducation. Comment ont évolué le champ visuel et le langage, surtout à vous, à qui on avait dit votre fille ne parlera jamais?
Le champ visuel, donc, on faisait des petits exercices que Sylvie Chocron nous donnait à faire à la maison. Donc, a priori, vous vous dites que ça n'a pas forcément un lien direct avec la vision, mais c'est sa connaissance. Donc, elle fait travailler des zones du cerveau qui font que Flora a récupéré petit à petit son champ visuel. Alors, elle n'est peut-être pas sur un champ visuel comme nous, où on regarde jusque-là les mains, là, je les vois. D'après ce que je vois avec elle aujourd'hui, elle est là. Mais c'est énorme, parce qu'elle voyait ça, quoi. Et donc, elle ne pouvait rien apprendre. Voilà. Et quand je te dis rien apprendre, c'est-à-dire que des petits, les enfants, ils apprennent à parler en regardant le visage de leurs parents. Sauf que Flora, elle ne voyait pas notre visage. Donc, elle n'a pas pu apprendre à parler. Et donc, elle a une orthophoniste qui lui a réappris à parler comme pour une personne aveugle, j'imagine. Je ne sais pas exactement comment font les aveugles pour apprendre. Mais vraiment, en lui mettant la main dans la bouche ou des petits bouts de bois et tout ça, pour qu'elle puisse arriver à former les lettres. Parce que comme elle ne les a pas apprises petites, il fallait tout réapprendre. Et donc, elle a réappris à utiliser sa langue pour prononcer les mots, enfin les lettres, puis des syllabes, puis des mots.
Et aujourd'hui, alors elle a eu son bac, à 23 ans. C'est quasiment pile poil 4 ans après l'âge requis.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Il y avait les 4 ans de retard d'apprentissage, sinon elle était dans les normes. Aujourd'hui, elle va comment ?
Ah, elle est super. Elle a même créé un blog pour parler de toutes ses difficultés, pour pouvoir transmettre ça à tous les gens qu'elle connaît. Elle veut être animatrice dans un EHPAD. Voilà, donc là, elle est en service civique cette année. Elle habite seule dans son appartement. Enfin bon,
très bien, quoi.
Voilà.
Alors Sylvie Chocron, vous le savez, enfin si vous suivez bel et bien le samedi matin avec Ali Rebéi, vous savez que je connais bien Sylvie Chocron. C'est en discutant un jour au téléphone que Sylvie m'a parlé de ça et j'ai trouvé que c'était absolument incroyable qu'en 20 ans de maternelle, on n'ait pas évoqué ce sujet. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes neuropsychologue, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes responsable d'un service à l'hôpital Fondation Adolphe Rothschild à Paris. Donc ces troubles de la fonction visuelle, dit donc troubles neurovisuels, c'est très peu connu du grand public. Même, je dirais, entre guillemets, les professionnels, les rédactrices en chef de cette émission ne connaissaient pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement de quoi il s'agit ? Parce que là, on a entendu le témoignage, mais voilà.
Bien sûr. Alors, tout le monde croit toujours qu'on voit avec nos yeux, ce qui n'est pas du tout le cas. Les yeux permettent de détecter des informations, mais si votre cerveau ensuite ne reconnaît pas ces informations, n'y fait pas attention, ne les analyse pas, ne les mémorise pas, c'est comme si vous n'aviez pas d'yeux, en fait. Et donc, on peut tout à fait ne pas voir le monde tel qu'il est avec des yeux qui fonctionnent
très bien.
Parfaitement bien. Donc, en fait, les yeux vont donner des troubles de l'acuité visuelle, là où les atteintes cérébrales de ces régions qui gèrent la vision vont donner des troubles qu'on appelle neurovisuels. Et c'est pas étonnant que vous n'en ayez jamais parlé, parce que il y a 20 ans, quand j'ai connu Flora, le terme n'existait même pas. Donc, des fois, quand je suis découragée, je me dis, bon, ben, il y a 20 ans, on n'en parlait pas, on connaissait pas le mot. Maintenant, au moins, on a un terme, on en parle et on sait, surtout, on a le recul pour dire qu'on peut traiter ces troubles, parce que contrairement aux troubles ophtalmologiques, on peut apprendre à voir à des enfants ou des adultes qui ont des troubles neurovisuels.
En fait, on peut restaurer le lien, entre l'œil qui va très bien et le cerveau qui va très bien, c'est juste le message qui ne se fait pas.
Exactement, c'est juste cette connexion et on peut donc restaurer un chemin dans le cerveau qui va prendre en compte ces informations visuelles, les traiter, les reconnaître et permettre à l'enfant d'interagir correctement avec son environnement.
Et surtout qu'on ne lui colle pas une étiquette de trouble autistique qu'il n'a pas.
Exactement.
On a reçu beaucoup de questions, notamment celle de Laure en vidéo. Regardez.
Bonjour à tous. Je me demandais quel pouvait être le lien entre ces troubles de la vision et des signes autistiques chez un enfant. Et par conséquent, s'il pouvait y avoir des diagnostics de TSA erronés à cause de ces troubles de la vision. Je vous remercie beaucoup.
Et on l'a vu avec Virginie.
Exactement. Alors en fait, il faut comprendre que dans le diagnostic d'autisme, l'élément qui pèse le plus lourd, c'est l'absence de contact visuel. Donc on a pris l'habitude de dire qu'un enfant qui ne regarde pas un adulte dans les yeux, c'est un enfant qui fuit le contact, qui a un trouble de l'interaction. Sauf qu'on oublie que regarder quelqu'un dans les yeux, c'est avant tout une tâche visuelle. Et que si vous ne pouvez pas contrôler vos yeux, si vous ne pouvez pas fixer, si vous ne reconnaissez pas les visages, ni les émotions, il n'y a aucune raison que vous alliez aller regarder les yeux de quelqu'un. Et donc, avant de poser un diagnostic d'autisme, chez un enfant qui a un trouble du contact visuel, il faut se poser la question d'un trouble neurovisuel.
Ça, c'est révolutionnaire, Sylvie,
voilà,
il faut le
dire. De manière systématique. Parce qu'un enfant qui ne regarde pas le stimulus préféré, parce qu'il faut savoir que le bébé, ce qu'il préfère regarder, c'est un visage. S'il ne regarde pas ce visage, ce n'est pas qu'il ne veut pas le regarder. Parce que jusqu'à 3-4 mois, les bébés n'ont pas le contrôle de leur mouvement oculaire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne peut pas le faire. Et donc, avant d'aller poser des diagnostics de troubles graves dans l'interaction, comme l'autisme, ou de troubles graves du développement, il faut aller vérifier que le bébé peut utiliser son regard. C'est crucial.
Aurélie vous demande, est-ce que la prise en charge des troubles neurovisuels peut faire disparaître des traits autistiques chez un enfant ou même chez un adolescent ?
Bien sûr. Alors, ce qui est magique, en plus, avec cette prise en charge, et je n'ai pas de mérite, c'est vraiment qu'il n'y a pas de limite d'âge. Et donc, on a reçu même des enfants grands, des adolescents, des jeunes adultes qui avaient un comportement autistique, à qui on a appris à voir et qui, du coup, se sont mis à regarder les gens, à comprendre les émotions. On leur a appris à traiter les visages, à interagir avec eux.
Là, vous dites bien qu'il y avait un comportement autistique. Donc, on ne parle pas d'enfants qui sont atteints de...
Enfin, le problème, c'est qu'ils ont été diagnostiqués autistes, mais qu'en réalité, ils ont grandi comme des autistes, mais n'étaient pas autistes. Et donc, du moment où on va leur réapprendre à voir, on va rétablir l'interaction.
Ça doit être absolument miraculeux et magique pour les parents. Tout à coup, le premier contact avec, j'imagine, je sais pas, un enfant adolescent...
Qui vous regarde et qui regarde autour de lui. En fait, c'est une révolution à la maison. C'est-à-dire, les parents décrivent très bien le premier jour où il m'a regardé ou bien il a regardé ce qu'il y avait sur la table ou il a été capable de ranger les fourchettes dans le tiroir alors qu'il était complètement coupé du monde. C'est révolutionnaire.
C'est une lueur d'espoir pour plein de parents, en fait.
Et on parle d'autisme, mais est-ce qu'il y a aussi des faux diagnostics de 10 aussi ?
Bien sûr. Alors, en fait, il faut comprendre que la vision, c'est le socle vraiment de tous les apprentissages, de toutes les interactions. Et donc, quand vous ne comprenez pas ce que vous voyez, que vous ne pouvez pas utiliser votre vision, mais que vous avez un sens que vous n'utilisez pas parce que vous ne comprenez pas à quoi il sert, du coup, vous ne pouvez pas apprendre à lire, ni à écrire, ni à compter, ni à faire des gestes, ni à interagir. Et donc, un enfant qui a des troubles neurovisuels est susceptible d'être diagnostiqué soit autiste, soit avec un des 10, soit multi-10.
Alors justement, on a reçu une question de Magda qui dit « Mon fils souffre de multiples troubles 10. Est-ce qu'un problème de vision peut être la cause ? Et est-ce que tous les troubles 10 peuvent-ils être guéris grâce à votre prise en charge ?»
Alors en fait, moi j'ai l'habitude d'expliquer aux parents que c'est un petit peu comme les joueurs de loto. Tous les gens qui gagnent au loto ont joué, mais tous ceux qui jouent ne gagneront pas. Même pour l'autisme et les 10, c'est la même chose. Tous ceux qui ont des signes autistiques, j'ose même plus dire d'autisme, ou de 10, peuvent avoir des troubles neurovisuels, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants. Par contre, effectivement, même quand les autistes ou les enfants 10 n'ont pas véritablement de troubles neurovisuels, ils ont souvent des particularités. On sait que les autistes, ils sont très attirés par les lumières, par les objets qui tournent. Et donc, de toute façon, ça vaut le coup. J'ai envie de dire que de manière systématique, quand un enfant ne se développe pas comme il devrait, qu'il ait des troubles des apprentissages ou des troubles de l'interaction, il faut en premier lieu aller vérifier non pas uniquement l'acuité visuelle, mais ce qu'on appelle la fonction visuelle, c'est-à-dire la façon dont il utilise sa vision, vraiment en amont du diagnostic.
Paula qui vous demande, est-ce qu'on connaît les causes possibles de ces troubles neurovisuels ?
Oui, alors la plupart du temps, ces troubles neurovisuels, ils sont dus à des conditions vraiment très difficiles de naissance. Donc on parle d'enfants vulnérables qui sont nés du coup comme Flora, cordon autour du cou, détresse respiratoire, accouchement très long, césarienne en catastrophe parce que le cœur se ralentit. Donc toutes ces conditions-là, plus évidemment toutes les conditions neurologiques, d'infection du cerveau, d'AVC. Il y a des AVC néonataux, on sait que ça existe maintenant. Et quand il ne s'est pas passé quelque chose autour de la naissance, qui représente 95% des cas, à ce moment-là, on va trouver quelque chose plus tard dans l'enfance. Un traumatisme crânien, un enfant qui survit à une noyade, une infection, une forte fièvre avec des convulsions, dont on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais ensuite le comportement de l'enfant change. Et donc il faut être extrêmement vigilant, et à chaque fois qu'on cherche... qu'on fait donc le premier entretien, on retrouve la plupart du temps une cause qui vraiment met en jeu le cerveau et en particulier ces régions cérébrales visuelles qui sont irriguées en premier dans l'ordre d'irrigation et qui consomment beaucoup d'oxygène. Donc dès que le niveau d'oxygène baisse dans le cerveau, quelle que soit l'origine, dès que l'enfant respire mal, ces régions sont susceptibles d'être touchées. Donc y compris dans des asthmes très importants, des spasmes du sanglot, oui, etc. Donc il y a plein de causes possibles.
Oui, ça peut être des causes aussi banales, entre
bien
guillemets,
sûr, qui sont passées totalement inaperçues.
C'est fou. Et moi, j'ai une question. Par exemple, un enfant qui lit très mal, voilà, en sixième, un peu de désert diagnostique, on ne sait pas s'il est dyslexique, s'il est TDA, voilà. Ouais. Est-ce que ça peut être un trouble visuel, mais alors, du coup, léger, qui le gêne?
Tout à fait, bien sûr. Ah, oui. Donc, en fait, le problème de ces troubles, c'est qu'ils peuvent avoir été acquis au moment de la naissance, mais se révéler au moment des apprentissages, forcément, parce que c'est le moment où on a le plus besoin de faire attention visuellement, de reconnaître, d'apprendre, de mémoriser. Et donc, pour apprendre à lire, évidemment, pour différencier un P, un B, un D, un Q, oui, si vous n'êtes pas à l'aise d'un point de vue visio-spatial, toutes ces choses-là, toutes ces lettres-là, c'est la même lettre, en fait. Et donc, bien évidemment, avant de poser un diagnostic de dyslexie, de troubles des apprentissages, quels qu'ils soient, ou de troubles de signes autistiques, il faudrait absolument pouvoir vérifier que ce qu'on appelle la fonction visuelle, c'est-à-dire le fait de faire attention, de comprendre ce qu'on voit, de le mémoriser, d'organiser les choses spatialement telles qu'on devrait, que tout ça est possible. Parce que sinon, tous ces troubles-là vont passer inaperçus, l'enfant va rentrer dans une case qui n'est pas la sienne, de dyslexie, dysgraphie, etc. Et les rééducations qu'on va proposer ne seront pas adaptées, c'est bien ça sûr, le problème aussi. Sûr. Alors que rééduquer, réapprendre à voir à un enfant, on va en parler, c'est extrêmement facile.
Et en plus, l'enfant, ça peut avoir des conséquences évidemment dramatiques.
Bien sûr, et puis un enfant voilà, qui fait confiance à un adulte qui a l'air bien intentionné pour le rééduquer et qui ne progresse pas, c'est pire que pas de rééducation mise en place.
Bien sûr. Nathalie vous dit « Bonjour, mon fils a eu le cordon entouré deux fois autour du cou et il y a une petite correction des yeux. Est-il nécessaire de faire une IRM de la région du cortex pour voir si c'est lié ?»
Alors avant de faire une IRM, en général, on fait un bilan qu'on appelle neurovisuel où on va regarder non pas l'acuité visuelle comme chez l'ophtalmo, mais vraiment le champ visuel, les capacités spatiales, l'attention visuelle, la mémoire visuelle. Et ça, oui, c'est conseillé, surtout si son enfant a des difficultés pour apprendre à lire ou à écrire ou des petites difficultés comportementales qui fait tomber certains objets, qui se cognent toujours du même côté, qui ratent les marches. Donc tout ça doit alerter.
Et ça peut être des enfants, pardon Yasmine, qui ont fait déjà des bilans chez l'ophtalmo, qui n'ont rien montré?
Bien sûr. Alors il faut savoir que dans le bilan ophtalmologique, il n'y a pas le champ visuel de manière systématique. D'ailleurs, si je vous demande si l'ophtalmo a mesuré le champ visuel de vos enfants ou votre champ visuel, mis à part le fait où vous avez le risque de glaucome, les ophtalmos ne vont pas regarder l'étendue du champ visuel, ni l'attention visuelle, ni la reconnaissance visuelle. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir faire ce bilan-là, oui.
Mais on va où pour le faire?
Alors, il y a maintenant de plus en plus de professionnels qui sont formés. Donc, nous, évidemment, on est la seule équipe encore en France à faire ça, mais on forme beaucoup de gens. Et donc, cette compétence pour faire des bilans neurovisuels ou des prises en charge, elle est partagée par plusieurs professionnels, des orthophonistes, des orthoptistes qui se sont formés, voire des neuropsychologues. Donc on a choisi de former en fait tous les professionnels qui sont en lien avec l'enfance et les troubles des apprentissages pour que ce soit vraiment une compétence qui soit partagée par des professionnels issus de différents milieux.
Marielle vous demande à partir de quel âge on peut détecter ces troubles?
Alors, on a maintenant la chance de pouvoir les détecter à partir de 1 mois. Donc, nous, on a mis en place des outils pour vraiment dépister ces troubles et les caractériser. Ce qui veut dire qu'à 1 mois, c'est presque plus facile de détecter ces troubles parce qu'à 1 mois, le bébé n'a pas le contrôle de ce qu'il fait avec ses yeux. Et donc, il ne fait que ce qu'il peut faire. Alors qu'à 18 mois, un enfant, il peut fermer les yeux, refuser de vous regarder, et ça va être beaucoup plus dur de le tester. Mais donc, à partir de 1 mois, on reçoit des enfants qui sont nés dans des conditions difficiles ou qui n'ont pas de contact visuel. Donc, il faut vraiment un enfant qui ne regarde pas un adulte dans les yeux ou qui n'explore pas son environnement quand la lumière est allumée. C'est un enfant qui, potentiellement, si en plus il est né dans des conditions difficiles, peut présenter ce type de trouble.
Clara vous dit concrètement en quoi consiste la prise en charge de ces troubles. Est-ce que ce sont uniquement des exercices qui font travailler les yeux?
Alors, en fait, ça ne ressemble pas vraiment à de la rééducation orthoptique. Oui. Si c'est ça la question. Parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que ces enfants ne peuvent pas développer leur vision avec les stimuli naturels de l'environnement. Il faut imaginer que ce qui est présent dans l'environnement ne suffit pas à développer les régions cérébrales visuelles qui sont immatures à la naissance. Et donc, ce qu'on va faire, c'est expliquer aux parents qu'il faut utiliser des stimuli visibles, donc lumineux, contrastés, que l'enfant voit, pour lui apprendre à fixer, à suivre, à reconnaître, à mémoriser. Et moi, je conseille même aux parents d'enfants qui ont des troubles neurovisuels de mettre du rouge à lèvres noir, gothique. Ça plaît beaucoup au papa quand je leur explique ça en consultation. Parce que si on ne fait pas ça, le bébé ne voit pas les lèvres et donc ne peut pas, dès la naissance, intégrer les mouvements des lèvres qui lui permettront d'apprendre à parler. Parce qu'on pourrait se demander mais pourquoi un enfant qui a des problèmes visuels n'apprend pas à parler. Parce qu'on apprend aussi à parler en imitant et en comprenant les mouvements de la bouche. Et si la bouche, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire peu contrastée par rapport au visage, le bébé ne voit pas les lèvres. Et donc, le seul moyen de les voir, ça va être de mettre du rouge à lèvres noir ou du rouge à lèvres très rouge pour les gens qui ont la pommade.
Et quand vous ajoutez à cela les masques qu'on porte tous,
exactement, oui, oui, exactement.
C'est un vrai sujet. Une question d'Arnaud qui sort un tout petit peu de ce champ, mais la réponse sera intéressante. Ma fille souffre de troubles neurovisuels détectés assez tard et a beaucoup de mal à suivre à l'école. Il vous demande, est-ce qu'un ordinateur en classe pourrait lui faciliter la tâche?
Alors, il n'y a pas de réponse universelle par rapport à ça, parce que les enfants qui ont des troubles visio-spatiaux, ils vont être perdus sur un clavier et sur un écran de la même façon qu'ils sont perdus sur une feuille. Donc, l'ordinateur n'est pas forcément la bonne réponse. Ce qui est très important pour tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de faire un test tout simple, de faire écrire un enfant les yeux fermés et de le faire écrire les yeux ouverts. Si l'écriture les yeux fermés est meilleure que l'écriture les yeux ouverts, ce qui n'est pas normal du tout, c'est qu'il y a un problème neurovisuel. C'est que quand l'enfant a les yeux ouverts, il est gêné en fait par sa vision au lieu d'être aidé. Et donc le fait de lui faire fermer les yeux va améliorer les performances. Et donc si on est dans ce cas-là, ça veut dire que le problème est neurovisuel, que l'ordinateur, il n'aidera pas grand-chose parce qu'il n'est pas au niveau gestuel le problème. Il est vraiment au niveau visuel. Donc c'est un petit test tout simple que tous les parents peuvent faire.
Marine, vous dites tous les troubles autistiques pourraient-ils venir d'un dysfonctionnement de la vision? Vos méthodes pourraient-elles aider n'importe quel enfant diagnostiqué TSA? Vous avez un peu répondu à cette question tout à l'heure en disant que c'était pas...
Alors, on ne peut pas dire que tous les troubles autistiques sont dus à un trouble neurovisuel. Par contre, beaucoup d'enfants sont diagnostiqués avec un autisme alors qu'ils ont des troubles neurovisuels, tout simplement parce que les enfants ne reconnaissant ni les visages, donc il faut imaginer un bébé qui ne reconnaît pas ses parents par rapport à d'autres visages, qui ne reconnaît pas les émotions, qui n'arrive pas à contrôler son regard, donc qui n'arrive pas à regarder dans les yeux et qui n'arrive pas à, du coup, imiter le sourire parce qu'il ne le perçoit même pas. Donc, de fait, les enfants qui ont des troubles neurovisuels vont développer des troubles de l'interaction parce qu'ils ne comprennent pas visuellement le monde dans lequel ils grandissent. Donc beaucoup d'enfants diagnostiqués avec des troubles autistiques ont en réalité des troubles neurovisuels et les éduquer à la vision va leur permettre de rétablir la communication. Même quand il n'y a pas de troubles neurovisuels avérés dans l'autisme, faire une forme d'éducation visuelle pour ces enfants, ça va de toute façon les aider parce que les enfants autistes ont de toute façon du mal à utiliser leur vision, même si elle n'est pas troublée. Donc de toute façon, on a tout intérêt à le faire. Et c'est ce qu'on fait, donc on a monté là récemment un groupe qui s'appelle Vision et Autisme, qui est composé de cliniciens et de chercheurs, pour justement véhiculer cette idée de l'intérêt de dépister les troubles visuels et de les prendre en charge chez des enfants autistes.
Mais pour répondre concrètement, vous ne voulez pas non plus donner de faux espoirs à tous les parents d'enfants atteints de troubles autistiques. Ce n'est pas non plus une recette miracle qui fait que ça va...
Pas du tout.
Je pense que c'est quand même important de le dire.
Bien sûr. On ne va pas réduire tous les signes autistiques chez tous les enfants. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, j'aimerais vous dire qu'on connaît la proportion d'enfants avec des troubles neurovisuels diagnostiqués autistes, mais il est trop tôt, donc il n'y a pas eu d'études systématiques. Ce qu'on commence à faire, c'est tester systématiquement les enfants dans les IME ou dans les institutions pour autistes, pour avoir une idée de la proportion d'enfants dans ces institutions qui présentent vraiment des troubles neurovisuels avérés. Donc dans quelques années, on en saura plus
vous
sur la
proportion.
Vous avez
une tendance déjà quand même, c'est une grosse majorité.
Alors, il y a certains établissements dans lesquels effectivement on est allé tester des enfants. Il y a y a une grosse majorité d'enfants avec des troubles neurovisuels avérés. Il y a eu une étude en Allemagne qui, les chiffres font peur, avec plus de 70% dans un hôpital psychiatrique de patients qui présentaient des troubles neurovisuels avérés. Ouais. Donc en fait, il faut imaginer que ces troubles neurovisuels, ils sont très fréquents. Ce sont les plus fréquents après une souffrance néonatale.
Alors qu'on n'en parle pas, c'est quand même...
Exactement. Et donc à chaque fois qu'un enfant qui a un comportement autistique est né dans un contexte de souffrance néonatale, il faut d'emblée se poser la question des troubles neurovisuels et essayer de les prendre en charge.
Pour l'instant, donc, ce n'est possible que chez vous, à la Fondation Rothschild, où vous vous déplacez, vous dites ?
Alors, c'est possible chez nous. Nous, on se déplace dans les établissements. On a aussi un projet d'équipe mobile qui se déplacera dans différentes structures, voire même au domicile de parents. Et il ne faut pas que les parents s'inquiètent en se disant « dans ma région, il n'y a pas les ressources », parce que ce que nous, on a pris l'habitude de faire ces 20 dernières années, c'est de former les parents, d'une part, parce que la vision, c'est comme le langage. On n'emmène pas les enfants 45 minutes par une fois par semaine pour apprendre à parler, ben c'est pareil pour la vision. Donc on peut éduquer les parents à ce qu'ils éduquent leurs enfants visuellement en les stimulant plusieurs fois 5 minutes par jour. Et donc on va former les parents et on peut aussi former les cliniciens qui sont dans les régions et qui s'occupent de l'enfant. Donc nous, on reçoit l'enfant avec ses cliniciens ou ses éducateurs et on forme tout le monde, les parents, les cliniciens, à cette prise en charge.
Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi que ça peut être aussi des troubles neurovisuels qui sont légers, mais qui peuvent avoir des conséquences légères sur les apprentissages, mais qui sont quand même
D'où la confusion avec des troubles des apprentissages.
Oui, c'est ça.
Et donc, les enfants qui ont des troubles neurovisuels ne sont pas toujours pris uniquement pour des autistes. Ils peuvent être pris pour des enfants feignants, pas motivés, qui ne veulent pas travailler ou qui ont des troubles des apprentissages.
Merci beaucoup à Sylvie Chocron d'être venue nous voir et surtout merci à Virginie d'être passée dans la maison des maternelles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast et un nouvel épisode de l'émission, bien sûr en direct sur France 2 à 9h28 pour être très précis. À demain tout le monde, ciao tout le monde, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi, ciao.